Bonjour à tous et merci d'être fidèles à l'émission Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche sur RMJ. Cette aventure, Claude Perronnet l'a commencée voici 6 ans, en septembre 2015. Cela représente 292 émissions et 184 chroniques. Claude Perronnet qui nous a promis d'atteindre la 200e chronique. En attendant, et chaque week-end, nous vous proposons une alternance de nouvelles émissions et de rediffusions, celle de 2015-2016.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique de nos Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche. Elle sera consacrée au loup hier en Basse Marche. Nous puiserons dans les ouvrages de Jacques Morlot et Joël Plaisance, Le Loup hier en Limousin, de Louis Peignot, Le Bal des Conscrits et Bergère, Éternelle Bergère, de messieurs Dunis et Brissard, le catalogue du Festival de Bellac 1968, et de Charles Sylvestre, dans Au soleil des saisons.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Prends garde au loup, bergère, prends garde au loup. Prends garde au loup, bergère, prends garde au loup. Il est au bois qui regarde, il est au bois qui regarde tes moutons. Prends garde au loup, bergère, prends garde au loup. Prends garde au loup, bergère, prends garde au loup.
Prends garde au loup, nous avertit la chanson. Oui, c'est la plus grande frayeur de la bergère que l'apparition du loup. Le loup, nous dit Louis Peignot, pas de semaine qu'il ne vienne rôder pour rober quelques moutons. Caché dans les fougères, il attendait que vous eussiez les yeux tournés d'un autre côté pour bondir au milieu du troupeau et saisir la brebis après l'avoir renversée tout d'abord d'un vigoureux coup de tête. Il la prenait alors invariablement sous le ventre et fuyait avec sa proie. Le drame était le plus souvent silencieux et rapide. On était averti que par le piétinement soudain des moutons affolés qui se rapprochaient de la bergère et aussi par les chiens surpris qui se mettaient à aboyer. Alors, pas d'hésitation possible. Il fallait courir vers lui pour tenter de saisir la brebis par une patte. Heureuse, la bergère qui réussissait à faire lâcher prise. Plus heureuse encore, celle dont la brebis n'était pas blessée. Le loup, dessaisi de sa proie, se plantait sur la muraille de pierre sèche à la lisière du bois et vous regardait en montrant les dents, avant de se décider à disparaître dans les forêts. Vous suivait-il le soir sur le sentier couvert de neige? Si vous aviez la chance de rencontrer ses yeux luisants avant qu'il ait pu voir les vôtres, il était subjugué et s'éloignait la tête basse. Dans le cas contraire, vous couriez grand risque d'être attaqué, risque d'autant plus grave que vous étiez dans l'impossibilité de crier pour appeler au secours. Toute personne qui levait les yeux sur un loup alors que son regard était déjà braqué sur elle avait la voix coupée. Si même elle en réchappait, jamais elle ne recouvrait l'usage normal de la parole. Et Louis Peignot de nous raconter l'histoire de cette bergère. Depuis des heures déjà, là-haut, sur les peaux couverts d'une épaisse brume, cette bergère, prénommée Julie, bien que peu peureuse, se sentait gagnée par la peur malgré la présence de sa chienne à ses pieds. Elle était là, à côté à la muraille du taillis, quand les brebis remontèrent en courant vers la cime. Au même instant, une forme sombre sauta le mur à quelques pas et fila vers le troupeau. La fillette, terrifiée, les jambes et la voix coupées, se laissa choir sur la murette en fermant les yeux. Toutes ses résolutions de courage l'abandonnèrent. Tous les conseils sur la conduite à tenir en présence du loup qui emporte une brebis s'évanouirent de sa mémoire. Affolée, elle rassembla ses bêtes, les foya à grands coups de verge et redescendit en pleurant au village. Quand la mère la vit arriver, tout de suite elle comprit. Julie venait de soutenir dans les peaux son premier combat et elle redescendait vaincue. De toute la veillée, elle fut inconsolable malgré les bonnes paroles de ses voisines qui avaient, en leur temps, connu de semblables émotions. La nuit, les cauchemars l'agitèrent. Elle eut, plus tard, bien des occasions de s'aguerrir et de disputer les brebis aux ravisseurs, mais jamais cette première rencontre ne quitta sa mémoire. Dans sa vieillesse, elle évoquait encore, et c'est sans la moindre malice, qu'elle avertissait les jeunes filles de s'attendre à être émues quand elles verraient le loup pour la première fois.
Les petites histoires font les grandes histoires.
Quelle est la trace du loup dans la toponymie de la Basse-Marche ? Par son imagination, pour marquer un événement précis, les habitants de notre province ont parsemé leur territoire d'appellations qui immortalisent la présence du loup. En voici quelques exemples en Basse-Marche et dans ses marges. Plante-loup, à Saint-Sornin-la-Marche. La Fonte-au-Loup, donc la fontaine au loup, à Roussac. La tombe du loup, c'est le nom d'un champ à Saint-Hura, dans la commune de Sieux. La chambre du loup, c'est le nom donné à une étable où un loup aurait été tué, à Perlade. Le communal du loup se trouve à Montrocher, près de Montreuil-Sénart. La maison du loup est à Frochet, dans la commune de Bussière-Boffy. On trouve Japeloup à Cromat, à Arnac-la-Poste et à Saint-Bonnet-de-Bellac. Le chemin de la vie du loup est un chemin qui relie Bois-Mandé à La Roche, dans la commune de Saint-Sulpice-les-Feuilles. On trouve le chemin du loup et l'auberge du loup à Brignier, près de la Souterraine. Le pied du loup est le nom d'un champ, près de Dans-le-Palestel. Étrangle-loup et la Volouble sont à Château-Ponsac, la Loubresse à Magnac-Laval, Beaubeloup à Peyrade-Bellac, la Pierre-au-Loup à Saint-Prié-la-Feuille. La Fosse-au-Loup est dans la forêt de Chabannes, près de Fursac, et le pont du loup à Maillac-sur-Benaise. Ce fameux loup qui a tant marqué l'imagination populaire, qui est-il ? Voici un extrait du catalogue de l'exposition du Festival de Bellac 1968 consacré aux mammifères du Limousin. Dans la famille des canidés, il nous présente le Canis lupus, le loup. Autrefois très répandu, il a marqué les légendes populaires. Il a disparu de notre région, la dernière capture se fit en forêt de Rancon. Évitant les zones habitées, il est avide de forêts vastes et tranquilles. Essentiellement crépusculaires et nocturnes, les loups sont sociaux. Ils chassent en bande et forment des meutes en hiver, période où ils deviennent dangereux parce qu'affamés. La liaison entre individus est assurée grâce à des cris dont les plus connus sont les fameux hurlements qui glacèrent d'effroi bien des générations de nos ancêtres. Il a la taille d'un grand berger allemand, gris, à queue touffue. Le rut a lieu en hiver et la gestation dure 63 jours. Les portées sont en moyenne de 4 à 6 jeunes. L'allaitement dure 2 mois. Ils sont autonomes à 6 mois et aptes à se reproduire à 2 ans. La longévité est de 15 ans. Le croisement interspécifique entre chien et loup donne des hybrides féconds.
Les petites histoires font les grandes histoires.
Dans Au soleil des saisons, Charles Sylvestre interroge un vieux chasseur qui nous parle ainsi du loup. « Je ne connais pas d'animal plus assuré dans sa force. Une vraie gueule d'enfer, tenue par une masse de muscles, les épaules, une poitrine comme un pont. Il y en a qui pèsent de 90 à 125 livres. Ils sont lourds, mais savent s'aplatir sur le sol et étrangler en silence, d'un seul bond. La louve cache son litho dans un épais fourré de ronces ou bien dans le voisinage d'un gros arbre. C'est une mère excellente. Et si elle vient à périr, avant d'avoir nourri ses petits, le loup continue à les nourrir. Il va régulièrement leur dégorger la chair des animaux qu'il a pu saisir et dévorer. On dit qu'il aime entre toutes la viande de chien. mais il ne méprise pas les cerfs et les jeunes sangliers, les chèvres et toutes sortes de volailles. Il peut gober un œuf, il peut étrangler un cheval. On dit aussi que dans les bois où il se trouve, il n'y a pas de renards dont les ruses seraient inutiles. À défaut de ses proies, ils font carême en mangeant des grenouilles ou des mulots. Le loup, rival de l'homme, a toujours présenté pour ce dernier un aspect dangereux, voire effroyable. C'était un véritable fléau qui sévissait dans notre pays. Les loups faisaient des ravages auprès des bestiaux, ils s'attaquaient aux chiens, aux moutons et même aux chevaux. Dans le journal Le Courrier du Centre du 19 février 1877, on peut lire. On signale, dans la région de Mézières-sur-Issoire, les méfaits de nombreuses bandes de loups mettant à contribution les troupeaux des villages. Les habitants réclament des battues. Et le 13 novembre de la même année, on peut lire, près de la limite des départements de la Haute-Vienne et de la Charente, 40 moutons parqués dans un pré ont été dévorés par les loups. Au cours des rudes hivers, les loups s'approchaient des habitations. Bien que par nature ils fuient les hommes, il est arrivé que des personnes, surtout des enfants et des femmes, soient agressées et même dévorées par les loups. Chez nos voisins creusois, dans ce pays de bois sombres, de landes et de chemins creux qui provoquent le mystère, le loup n'a fait qu'ajouter à ce mystère. Et au siècle dernier, la grande forêt de Saint-Germain-Beaupré, dont il ne reste aujourd'hui que des lambeaux, était le grand repère des loups dans l'ouest de la Creuse. C'est ainsi qu'au cours de l'hiver 1879, qui fut très rigoureux, les loups affamés ne cessèrent de rôder auprès des hameaux. La mère Laine, une vieille femme de la Réjade, se rendait au bourg quand elle fut soudain attaquée par un énorme loup. Elle se défendit avec courage, parvint à se débarrasser de la bête en jetant sa grande cape noire que le loup déchira à grands coups de croc. La mère Laine s'enfuit, mais elle avait reçu de graves morsures. Quelque temps après, une battue, à laquelle participèrent près de 1800 hommes, permit la capture d'un énorme loup. Les loups hantaient la forêt de Saint-Germain, mais aussi celle du Faisceau près des Gusons, du bois des Ramades, la forêt du Comte ou le bois cornu près d'Azrable. Et personnellement, je me souviens des histoires de ma grand-mère qui avait connu les loups du bois cornu. En effet, les loups ont disparu de ces forêts vers 1886, lors de la construction de la ligne de chemin de fer de Saint-Sébastien à Guéret, bien que certains affirment qu'il y en avait encore en 1891. Plusieurs loups furent abattus au cours de l'année 1886. Un très beau mâle au cours de l'hiver et deux autres loups qui furent exposés à la souterraine. Quelque temps après, une louve avec ses louveteaux fut capturée, amenée à la souterraine après avoir été tuée pour y être montrée à la population.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Louis Peignot nous raconte, lui, cette histoire à Roussac. Un soir, Marguerite, qui ramenait ses moutons par un chemin étroit et encaissé entre les taillis, eut la surprise d'apercevoir un loup qui marchait posément au devant du troupeau. Les brebis ne pouvant ni avancer ni s'égayer dans les champs reculaient. Marguerite dut frapper l'animal à grands coups de quenouille pour le mettre en fuite. Il s'éloigna sans courir, sans même, ce jour-là, montrer ses dents. Dans un autre ouvrage, il ajoute « En hiver, de toutes parts, dans la campagne brumeuse, montait la fumée des feux que les bergères allumaient pour se chauffer à 3 ou 4 rassemblés. » Les histoires de loups complétèrent la scène. Il fallait leur disputer la brebis, la leur arracher courageusement de la gueule si on ne voulait pas, le soir, être sévèrement grondé. Le loup était vraiment un dangereux rival, et songez que dans notre région, il pullulait. C'est ainsi qu'en 20 ans, de 1883 à 1903, 739 loups furent tués dans le département de la Haute-Vienne. Les loups sont nombreux, ils sont dangereux, il faut donc s'en débarrasser. Et d'abord en essayant de les faire fuir. Voici ce que nous en dit Charles Sylvestre dans « Au soleil des saisons ». Il raconte l'histoire d'un paysan de Bellac qui rentrait d'une veillée. Il sentit quelque chose qui le suivait et qui le flairait. Quand il s'arrêtait de marcher, il entendait des pas de feutre. Il voyait deux lueurs braquées sur lui. Il marchait, le loup s'avançait. Il s'arrêtait, le loup s'arrêtait. Il se dit « Quand il s'apercevra que je ne suis plus sur mes gardes, il me sautera à la gorge. » Alors, comme il n'avait rien pour se défendre, il eut une idée merveilleuse. Comme il avait fauché dans l'après-midi, il avait gardé sa pierre à aiguiser enfoncée dans une corne creuse. Elle était pendue à sa ceinture. Il la prit et se mit à battre le fer tout en marchant. Ce bruit clair fit s'enfuir la bête affamée. Et Charles Sylvestre d'ajouter ce témoignage d'un autre paysan de Peyrade-Bellac. Quand j'avais 6 ans, je revenais souvent avec mon grand-père qui allait travailler loin de chez nous. Après le coucher du soleil, il fallait traverser la forêt. Les loups nous suivaient et ça faisait une lumière. J'attrapais mon grand-père par sa blouse, j'avais peur. Alors il faisait partir des allumettes, ça les chassait. Le moindre feu les effraie. C'est vrai que pour faire fuir les loups, on a recours au feu, aux flammes ou au bruit, comme de taper les semelles de ses sabots. Pour faire fuir les loups, il y a aussi des formules magiques et des rites. Ce que nous trouvons dans la liste des conseils aux bergères, par exemple. Le loup ne fera aucun tort aux brebis si vous liez au col de celle qui va la première un aïe sauvage. En face du bourg de Montrol-Sénard, sur le rocher de Pierre-Servière, les cultivateurs de la contrée apportaient jadis des morceaux d'agneaux sacrifiés à l'intention des loups pour qu'ils ne déciment pas les troupeaux. Un autre rite consiste à retourner la petite semelle de paille ou de foin que les habitants avaient l'habitude de placer dans leurs sabots et le loup s'enfuyait. On faisait parfois appel à des guérisseurs. Voici un des rites d'une guérisseuse de Limoges qui se rendait dans la campagne. Elle rassemblait les brebis au milieu de la bergerie. De la main gauche, elle tenait une paire de ciseaux et de la main droite, elle faisait le signe de la croix en récitant « Va-t'en, vilaine bête, ne touche pas ces brebis, elles ne sont ni à toi ni à moi, elles sont à la Vierge Marie, si tu les touchais, elles se fâcheraient. » À noter encore que pour carnaval, dans la région, après le repas, on n'oubliait pas de jeter des eaux ou de la soupe près de la bergerie en disant « Petit loup, gros loup, voici ton carnaval, et ne reviens pas de cette année, saoule-toi et laisse nos brebis. » On peut douter de l'efficacité de ces actes. Pour se débarrasser des loups, il faut les détruire. Et pour cela, on va utiliser, pour l'essentiel, l'empoisonnement, les fosses et les battues. L'empoisonnement d'abord. À la limite du Poitou et du Limousin, par temps de neige, on traînait une bête crevée, un chat, un agneau, un veau, sur une distance de 2 kilomètres. Puis elle était empoisonnée et placée là où les loups devaient passer. L'animal suivait la piste, mangeait la bête et crevait. Le piège était en général placé près d'un ruisseau car le loup buvait après avoir mangé et crevait plus vite. Il arrivait que les loups se mordaient entre eux en se disputant la proie. C'est ainsi que les archives de Saint-Julien-les-Combes nous indiquent qu'un loup fut tué par empoisonnement en 1881. Il y a bien sûr également les pièges aux mâchoires d'acier, mais finalement assez peu efficaces car le loup pris par la patte n'hésitait pas à se mutiler, il s'enfuyait. Il y a encore les fosses. Le système de la fosse, le plus simple et le plus ancien des pièges, était fréquemment employé. Un trou d'environ 3 mètres de longueur sur 1,50 m de largeur devait être creusé 1 an à l'avance et la terre devait être soulevée et portée le plus loin possible. À l'automne suivant, le croc, ou trompe-loup, était recouvert de brindilles et de feuilles. Il fallait faire en sorte que l'odeur de l'homme soit imperceptible. Le loup tombé dans la fosse en forme d'entonnoir était achevé à l'aide de fourches ou de fusils. Il arrive que d'autres que les loups tombent dans ces fosses. Écoutons le récit de Louis Peignot.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
On avait parfois la chance de retrouver le loup dans la fosse, mais plus souvent aussi la surprise d'y découvrir d'inoffensifs rôdeurs des bois. Une nuit même, le tailleur, le père Jean-Joux, qui s'en revenait de coudre de quelques villages éloignés, disparut dans le trou où venait de tomber un jeune loup quelques heures plus tôt. Au dire du bonhomme, la nuit fut longue et dramatique. Il lui fallut sortir ses grands ciseaux et les faire claquer sans arrêt pour tenir en respect son compagnon d'infortune. On s'amusait dans la contrée à faire conter au père Jean-Joux son aventure. « Comment faisiez-vous, père Jean-Joux ? » ?»« Mais petit, hein, avec mes ciseaux, je faisais tchac, 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 et le loup reculait. » Mais le jour fut bien long à venir. Cette pratique de la fosse fut si coutumière qu'on en fit une chanson et une danse. Voici maintenant le branle de la fosse au loup. Pour détruire les loups, les empoisonnements, les pièges, les fosses n'y suffiront pas. Il faudra organiser de grandes chasses et des battues. Chaque fois qu'un loup est abattu, sa dépouille est traînée par le rechasseur à travers les villages où les habitants donnent de la laine, des œufs ou même des sous. À Bussière-Poitevine, vers 1905, le loup était exposé dans la cour de l'école. Le garde-champêtre devait couper les extrémités des pattes de l'animal pour les faire ensuite parvenir à la préfecture et la prime était versé aux chasseurs. Ces primes, payées par l'État, vont de 5 francs 50 pour un louveteau à 11 francs pour un loup et 16 francs pour une louve. Dans les grands domaines, les grands propriétaires organisent, eux, des chasses à la manière des maîtres-veneurs. Voici comment Louis Peignot, dans le bal des conscrits, nous narre ces chasses. Tout au long du siècle dernier, il s'agit bien sûr du 19e siècle, les gens de Rancon, de Roussac, de Baldan avaient le spectacle de la chasse à cour. C'est ainsi que pour la Saint-Hubert de 1843, les équipages de messieurs de la Bège, de Monstier, de Roffignac, de Charpentier, de Méchin, venus pour traquer le loup, eurent la surprise de voir bondir devant leur chien un beau cerf. Et monsieur de la Bège poursuit le récit, ainsi dans le journal des chasseurs de 1844, « Dans la forêt de Rancon, c'est à peine si nous pouvions en croire nos yeux, mais trois loups venaient d'être abattus. Et vite, la chasse fut arrêtée pour laisser au cerf la possibilité de rembucher. » Si les grands équipages réalisent de nombreuses chasses aux loups, des particuliers réalisent, eux, de véritables exploits. C'est le cas de François Chalex, de Vérac, qui reçut de la mairie une médaille pour les loups déclarés par lui. Sur cette médaille, il est inscrit « François Chalex, 73 loups tués, 1898 ». Un autre grand chasseur de loups est Jacques Bertrand. Vous trouverez sa tombe dans le cimetière de Saint-Hilaire-la-Treille, tombe sur laquelle on peut lire « Terrain à perpétuité de Jacques Bertrand, de son vivant propriétaire à la Roussellerie, commune de Saint-Léger-Magnazet ». Il fut le plus grand destructeur de loups. En 5 années, il en prit 27, tous présentés à la mairie de sa commune. Et on raconte à son sujet l'anecdote suivante. Un jour, Jacques Bertrand se trouva en face d'un loup qui fonçait sur lui la gueule ouverte. N'ayant pas son fusil, Jacques Bertrand se jeta sur l'animal, enfonça en son bras si profond dans la gueule qu'il lui attrapa la queue et il le retourna ainsi comme un bât. Avec les nombreuses battues, les chasses à cour, l'action des lieutenants de Louveterie, les empoisonnements, les fosses, mais aussi les défrichements, la déforestation et la construction des lignes de chemin de fer, les loups vont peu à peu disparaître de la basse marche. Le dernier loup tué en basse marche l'aurait été dans la forêt de Rancon près de Saint-Julien-les-Combes en 1925. On chargea, nous dit-on, sa dépouille dans le wagon du tramway. Mais il semble bien que le dernier loup tué en Limousin le fut beaucoup plus tard à Dournazac en 1946. Notre séquence d'aujourd'hui prend fin, pourtant nous avons bien d'autres thèmes à traiter à propos du loup. Les croyances, les superstitions, les coutumes, les procédés magiques liés au loup, le corps des lieutenants de Louveterie, les meneurs de loups et bien sûr les loups-garous. Cela fera l'objet d'une autre chronique dans quelques mois. Merci de nous avoir suivis pour cette séquence de nos petites et grandes histoires de la basse marche consacrées au loup hier en basse marche. Nous l'avons fait en compagnie de Jacques Morlot, de Joël Plaisance, de Louis Peignot, de Serge Dunis, d'Alain Brissard et de Charles Sylvestre. Sur le plan musical, nous avons fait appel au groupe Maluzerne, Lard aux basses, Tête de chien, la compagnie des meneurs de loups, Maxime Cirque du Coin, Luc Arbogast et Arasta Bazar que nous écoutons en ce moment. Je vous invite à me rejoindre le week-end prochain pour une nouvelle séquence de nos petites et grandes histoires de la basse marche que nous consacrerons au peintre de Bellac, Aimé Valla, sous le titre « Aimé Valla, peintre de ferveur rustique et d'enchantement ». Très bonne semaine à vous tous. À bientôt.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région. La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.